comprendre l'actualité de l'économie locale avec CNews.press.
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, Envie d'entreprendre, saison 4, épisode 1. Pierre et moi, nous reprenons une émission qui nous tient vraiment à cœur, à cause de nos parcours probablement. Pierre, parmi ses nombreuses expériences, est journaliste, grand fan des hommes et femmes qui font l'économie. Moi, j'ai été salarié à des postes à responsabilité, comme on dit, avant de décider de devenir chef d'entreprise depuis maintenant plus de 12 ans. D'abord d'un magasin et depuis 3 ans d'une société de services aux entreprises. Tous les deux, nous nous sommes rejoints sur ce projet bénévole et également dans nos projets professionnels. Sûrement pas un hasard. Si nous vous proposons cette année une nouvelle approche et de nouvelles rubriques, nous avons tout de suite fait le choix de conserver le nom de l'émission. Parce qu'il veut vraiment dire quelque chose pour nous, sans envie, pas d'entreprise. Car la création ou le rachat, et ensuite la gestion d'une entreprise, c'est une grande aventure. Rarement un long fleuve tranquille qu'on traverse en barque. La plupart du temps, ce sont des rapides ou des tourbillons pendant lesquels il faut s'accrocher. Mais on n'est jamais seul quand on entreprend. On y entraîne sa famille, parfois ses amis, on croise au quotidien d'autres entrepreneurs, que ce soit en affaires ou dans les réseaux, qui sont d'ailleurs très nombreux et très actifs ici dans le Vaucluse. On partage, on échange, on crée des liens, on se trouve aussi des nouveaux amis. Parce que dans Envie d'entreprendre, on entend aussi le son « vie ». Et entreprendre, cela fait partie de la vie. Quand on tient une boutique, un local d'artisan ou une société de services, on apporte de la vie. D'abord en interne, avec ses employés, si on en a, mais aussi dans le quartier où on est installé. À l'inverse, ne dit-on pas que lorsque les commerces ferment, un village, une rue ou un quartier se meurt ? On en reparlera tout de suite d'ailleurs. Alors souhaitons longue vie à toutes les entreprises, à tous ceux qui les font vivre et à tous ceux dont nous partagerons les métiers dans les mois qui viennent. Parce que notre envie, c'est de vous faire partager la vie de ceux qui ont cette envie d'entreprendre. Allez, c'est parti Pierre.
Eh bien, pour cette première émission, Jean-Marc, nous allons parler, puisque nous sommes au mois d'octobre, des vendanges et de la manière dont elles se sont déroulées dans différentes appellations du Vaucluse. On va pour ça faire le tour de 3 domaines viticoles. Un qui est dans le Ventoux, un qui est en Queyranne, un qui est en Côte-du-Rhône. On va avoir un invité en direct. Mais avant tout ça, on va commencer par quelques brèves. Je te repasse le micro.
Oui, parce que si on est chef d'entreprise, on ne peut pas ignorer que cet automne marque le renouvellement de nos représentants aux chambres des métiers et aux chambres de commerce et d'industrie. Pour la chambre des métiers, les jeux sont déjà faits depuis le 14 octobre dernier. L'Union professionnelle artisanale, l'UPA, sort grand vainqueur de cette élection avec 18 élus départementaux sur 25. Mais malheureusement, il faut déplorer une très très faible participation. Seulement 7% de votants au niveau régional. Dommage. L'élection des représentants à la CCI est-elle toujours en cours jusqu'au 2 novembre ? 4 listes sont en lice dans le Vaucluse. Nous, on a une consigne de vote en tant que chef d'entreprise. Elle tient en une phrase. Votez pour qui vous voulez, mais votez. On compte sur vous.
Jeudi 20 octobre, l'Inspection Générale des Finances et le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable ont publié une étude sur le déclin commercial des centres-villes. En 2015, le taux de vacance moyen des commerces de centre-ville est de 10,4%, alors qu'il était de 6% en 2001. La palme de la ville la plus désertée par les commerçants revenant à Béziers, avec 24,4% de commerces vacants dans son centre-ville. L'étude identifie des points communs aux villes en état de désertification commerciale. Fort taux de chômage et de pauvreté, démographie en baisse, niveau de fiscalité élevé. Elle identifie aussi, ce qui est encore mieux, ce qui peut permettre à une ville de sortir de cette ornière. Le développement de l'attractivité touristique et bien entendu un revenu médian de la population plus élevé, ce qui semble assez logique. L'étude renvoie enfin les élus, communaux et surtout intercommunaux, à leur responsabilité dans le domaine. En affirmant, je cite, « Si le commerce est d'abord l'affaire des commerçants, il revient aux élus, responsables de la ville et de l'intercommunalité, d'engager et de mettre en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire. Celui-ci doit s'appuyer sur ses propres atouts, le patrimoine, la culture, l'attractivité touristique ou économique, mais aussi intégrer la maîtrise de l'appareil commercial de l'ensemble du bassin de vie, combiner tous les leviers d'action, l'urbanisme, l'habitat, les transports, et regrouper les acteurs locaux dans une gouvernance coordonnée. » Ben, comme disait l'autre, il n'y a plus qu'à.
Oui, mais Pierre, il y a aussi des endroits qui résistent. Comme à Valréas, où la commune a impulsé depuis 2 ans la création d'une 20aine de commerces. Comme quoi on peut y arriver ? Avec quelle solution ? Enfin, tu en as parlé. Tout d'abord, un conseil à donner à une commune qui souhaite redynamiser son centre-ville, ne lancez surtout pas d'action sans faire un vrai diagnostic. Vous vous apercevrez souvent que les solutions attendues par les commerçants ne sont pas toujours celles attendues par les acheteurs clients. Par exemple, est-ce que des places de parking font revenir des clients dans le centre-ville ou celui d'un village ? Pas toujours et pas souvent. De la même façon, Vouloir installer ou réinstaller en centre-ville des activités présentes dans les galeries de la grande distribution est utopique. Mais, comme ils l'ont fait à Valréas, soutenir les jeunes créateurs, les activités artisanales en privilégiant la souplesse des contrats de location, créer une pépinière de commerce, créer de l'animation autour de ce nouveau centre et utiliser bien sûr les atouts touristiques et patrimoniaux ou repeupler les appartements au-dessus des commerces, c'est recréer de la vie, on en parlait tout à l'heure dans l'édito, et là on se donne des chances de réussir.
Bien, eh bien, nous allons bientôt passer à notre dossier et histoire de se mettre en bouche, ce qui serait assez logique avec le vin, je vous propose de commencer par écouter Georges Brassens.
Avant de chanter ma vie de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou comme ces gens plus ou moins louches. Guise de sang, ô noblesse sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur, la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. Au ventre replet, rempli du bon lait, l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers pourront y noyer leur peine.
Retour en direct dans Envie d'entreprendre, c'est l'heure du dossier avec Pierre et son invité.
Eh oui, la vocation viticole du Vaucluse se résume en un chiffre. 15% de la surface agricole est dédiée à la culture de la vigne, ce qui en fait la première production du département devant les fruits et légumes. Depuis la crise de 2002, de nombreux domaines et parfois même des appellations entières telles que l'AOC Ventoux se sont lancés avec vigueur dans une double logique, de meilleurs produits et des quantités maîtrisées. Ce qui permet ainsi une croissance régulière du prix, parfois conséquente, puisque par exemple, pour les Côtes-du-Rhône régionaux dans leur entièreté, le prix moyen a progressé depuis 2012 de 20%. Une croissance qui se joue également à l'export, puisque 32% de la production de la vallée du Rhône est exportée. Et ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui qui me contredira, puisque le château Pesquier qu'il dirige avec son frère commercialise depuis déjà quelques années 80% de sa production à l'export. Bonjour Frédéric Chaudière.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors comment se sont... Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous pouvez nous présenter un peu le domaine, le château Pesquier? C'est un domaine qui a déjà une belle histoire.
Alors c'est un domaine familial donc qui est rentré dans ma famille au début des années 70. Mes grands-parents, René et Odette Bastide, avaient racheté la maison, l'ont rénové et ont commencé à développer le vignoble. On a été coopérateur pendant une vingtaine d'années. Et mes parents, Paul et Edith, ont repris le vignoble au milieu des années 80 pour ensuite créé la cave du Château Pesquier. On est devenu vigneron indépendant en 1990. Et donc depuis, on a repris avec mon frère Alexandre progressivement, on va dire à partir du début des années 2000, et on a continué l'aventure familiale.
Vous êtes donc à Mormoiron, donc dans la zone de la Haussée Ventoux.
Tout à fait, on est sur la zone de la Haussée. La cave est à Mormoiron, c'est le siège du domaine, mais le vignoble se répartit sur les communes de Ville-sur-Ozon, Blauvac, et un petit peu sur les franges de Bédouin, et évidemment Mormoiron encore.
Une des richesses de ce terroir, c'est qu'il y a beaucoup de diversité.
Oui, le bassin de Mormoiron a une diversité géologique assez extrême. On passe des éboulis calcaires aux marnes bleues, en passant par les terres rouges, les sables jaunes. Enfin, on a vraiment une palette à la fois multicolore et qui nous donne, qui apporte une complexité dans les vins que je pense que beaucoup nous envient.
Alors, comment s'annonce ce millésime 2016, puisque maintenant les vendanges sont terminées, la période de la vinification va commencer. Comment ça s'annonce ?
Ça s'annonce extrêmement bien. Ça a été une très belle surprise. On savait depuis assez longtemps que la qualité serait superbe. Les conditions sanitaires étaient assez merveilleuses. On craignait d'avoir des rendements un peu bas, qu'il y ait eu du stress hydrique. Et finalement, on se retrouve avec une récolte qui est même quantitativement assez satisfaisante. On aimerait faire des millésimes avec aussi peu de stress qu'en 2016 tous les ans. En tout cas, on re-signe pour l'année prochaine, si c'est possible.
L'année dernière, c'était déjà, je crois, pas mal aussi.
2015, c'était très beau. On a eu aussi à la fois la qualité et la quantité. On a bon espoir que 2016 place la barre encore plus haute.
D'accord.
Un peu tôt, hein, mais on y croit.
D'accord. Donc les vendanges, on va bientôt découvrir dans le reportage qu'on va diffuser comment elles se sont passées, comment elles s'organisent. C'est un moment vraiment clé pour forcément pour un domaine. C'est que ça conditionne le travail de toute une année et plus.
Ouais. On joue effectivement plusieurs années en quelques semaines. C'est un moment où toutes nos forces se concentrent sur le vignoble et sur la cave. C'est un moment d'une très très grande intensité. Ouais.
D'accord, très bien. Eh bien, donc je vous propose qu'on puisse découvrir justement comment ça s'est passé au Château Pesquier avec le reportage que voici.
Jeudi 8 septembre, 5h30 du matin. Autour du conquet de réception, installé au-dessus de la cave, Alexandre Chaudière et son équipe accueillent les premières remorques de raisins.
Les vendanges ont commencé au Château Pesquier. Comment ça se passe ? Quand ça a commencé déjà ?
Donc on a commencé pour les vionniers le 6 septembre, enchaîné la fin des vionniers pour le 7. Et aujourd'hui, on a ramassé les clairettes et on devrait faire les roussanes dès demain, dès vendredi.
Vers 7h30, Frédéric Chaudière rejoint l'équipe.
Vous commencez de bonne heure le matin, pourquoi ?
On commence en général vers 4h du matin, surtout pour les blancs et les rosés. L'idée c'est d'arriver à vendanger à la fraîche. Bon, il faisait 14 degrés ce matin quand on a commencé, pour avoir une vendange qui rentre à basse température.
En fait, c'est ça, le contrôle des températures, c'est devenu c'est un enjeu important pour le processus de vinification.
Oui, clairement, hein, c'est éviter un peu l'oxydation, rentrer les raisins les plus frais possible pour pouvoir les débourber à froid dans la foulée du pressurage. Dans tous les cas, c'est quand même qualitatif. Hein.
Vous travaillez donc en vendange mécanique et manuelle ?
On a notre propre machine à vendanger. Et effectivement, il y a une large partie de la vendange à Pesquier qui est ramassée mécaniquement. D'où la capacité, je dirais, de vendanger vite et très tôt le matin, ou plutôt tard dans la nuit, comme vous voulez. Et il y a effectivement une partie qui est vendangée à la main.
Combien d'hectares ça représente, cette vendange ?
Pour l'instant, on a vendangé 6 hectares.
Oui, 7 hectares, quasiment 7.
Il en reste 95 à faire.
C'est ça. Donc ça veut dire que vous prévoyez des vendanges qui durent à peu près jusqu'à... Parce que ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses, mais...
C'est toujours compliqué.
Ouais, c'est toujours difficile à dire, surtout là en tout début de vendange. Normalement, on devrait terminer entre le 15 et le 20 octobre, au plus tard. Vu les températures actuelles, ça risque d'être un petit peu plus tôt.
Et combien de personnes travaillent sur pour ces vendanges 2016?
On est...
Avec l'équipe de base, c'est 7 personnes.
7 personnes, ouais.
Et après, au rare moment de vendange manuel, ça s'étend un petit peu.
Ouais.
On retrouvera Frédéric Chaudière du Château Pesquier tout à l'heure. Je vous propose une seconde pause musicale avec UB14, Red Red Wine.
Chance d'être extrêmement complémentaires et en plus, après toutes ces années où ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, de s'entendre à peu près parfaitement. Et c'est vrai. Et mon frère s'occupe vraiment plus de la partie production au sens le plus large, c'est-à-dire à la fois vraiment de toute la gestion du vignoble, et c'est lui qui fait véritablement les vins plus que moi. On essaie de les penser ou de les assembler à quatre mains, mais le vigneron, c'est vraiment mon frère. Et lui a toujours eu, je dirais, il a attrapé le virus du vin dès ses toutes premières années. Il conduisait le tracteur quand il avait même pas 10 ans. Enfin, et sa vocation de vigneron a toujours été absolument claire. Et il a eu l'occasion de vinifier. Il a fait ses études en Bourgogne. Il a été un petit peu en Allemagne. Il a été un petit peu en Australie. Dans le nord de la vallée du Rhône, à Châteauneuf. Enfin, il a vu du pays et ça nous permet d'avoir une ouverture sur le monde qui nous a ramené dans notre terroir du Ventoux. De mon côté, je m'occupe un peu plus de la gestion et de la vente. Et moi, j'ai fait des études d'histoire et de philo, et puis après Sciences Po. Et on a des compétences très, encore une fois, ça fonctionne, tout en ayant le même objectif. Donc, on marche vraiment, vraiment bien dans la même direction.
Pour faire 80% de chiffre d'affaires à l'export, j'imagine que tu dois passer un petit peu de temps un peu partout sur la planète. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, comment on fait pour aller convaincre des acheteurs dans le sud-est asiatique d'acheter les vins du Château Pesquier?
Alors déjà, il faut bien reconnaître que nos parents avaient fait une grosse partie du travail et que dès le début des années 90, ils se sont tournés vers l'export. On a essayé de consolider, de renforcer un petit peu ce positionnement international. Et oui, ça veut dire être sur la route souvent. Ça veut dire beaucoup voyager et essayer à la fois d'aller à la rencontre de nouveaux clients. Mais une fois qu'on a réussi à les saisir, surtout aller entretenir nos marchés et convaincre les clients de nos clients que le Ventoux, que Château Pesquier fait de grands vins. Donc c'est des dégustations sur des salons professionnels, mais aussi ensuite chez nos clients, dans des restaurants, chez des cavistes. Et ça va un petit peu mieux maintenant que notre équipe s'est élargie, mais il m'arrivait d'être une bonne dizaine de jours par mois sur la route et dans un grand nombre de pays.
D'accord. Quelles sont les zones où actuellement vous êtes présent dans le monde avec le Château Pesquier?
Sur l'export, on a, on va dire, à peu près un tiers de nos exportations qui partent vers les États-Unis et le Canada. Un autre tiers qui va être essentiellement sur l'Union européenne. Et un tout petit troisième tiers, mais qui est celui qui a sans doute le plus de croissance, sur l'Asie. Donc le Japon a été le marché un petit peu historique, et depuis la Corée, une partie de la Chine, Hong Kong, Taïwan, une partie de l'Océanie, et on a quelques pays isolés en plus de ça, mais qui sont porteurs de grandes promesses, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, la Russie, où nos vins sont un peu distribués.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu dans des choses, des zones que vous cherchez à développer particulièrement en ce moment? Tu parlais du sud-est asiatique, l'Europe de l'Est.
Alors effectivement, voilà, sur toute la partie la plus orientale de l'Europe, on a encore de gros progrès à faire. Sur la Suède, enfin sur la Scandinavie, à l'exception du Danemark, et après en Amérique latine, on a beaucoup à faire. On a de grands espoirs en Afrique aussi. Donc on a du pain sur la planche encore.
Alors, la question, vous avez pris le relais tous les deux de vos parents, Edith et Paul Chaudière. Tu l'as dit, tu as fait des études, tu as été à Sciences Po, etc. Donc, tu aurais pu mal tourner, tu aurais pu être journaliste, tu aurais pu...
ça aurait été terrible.
Et qu'est-ce qui, toi personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre?
Je ne sais pas s'il y a une seule raison, c'est vraiment un faisceau, mais... On a la chance d'avoir un métier assez formidable qui est à la fois enraciné dans un terroir, un territoire, une histoire, et qui en même temps, on a parlé de l'exportation, nous ouvre vraiment sur le monde. Et je crois que c'est ça qui m'a convaincu dès le début. Après, il y a aussi la douce, et pas toujours douce d'ailleurs, mais dynamique familiale. Et finalement, c'est... Alors, je m'appelle Frédéric Chaudière, comme une chaudière, pas comme un Pesquier. Mais le domaine n'a pas notre nom, mais c'est vraiment un produit qu'on signe. Et cette dynamique familiale, je crois qu'elle a aussi beaucoup compté. Il y avait la volonté de pérenniser un travail assez fantastique qu'avaient accompli déjà nos grands-parents et a fortiori nos parents dans les décennies précédentes.
Tu te rappelles si tu as hésité ou si les choses se sont faites de manière relativement évidente?
Moi, j'ai beaucoup hésité. J'étais encore moins modeste à l'époque que je le suis maintenant, et c'est pas peu dire. Et donc, quand je suis revenu au début des années 2000, je pensais simplement rester 6 mois ou 1 an, faire la révolution et partir vers d'autres horizons. Et c'est un métier qui m'a appris la patience. Pour le moins, Et voilà, j'ai compris que c'était une aventure de très long terme. Et tout en me rendant compte de ça, en même temps, j'ai vraiment compris que j'avais envie de m'y investir pour longtemps.
D'accord. Et c'est un choix que tu n'as jamais regretté ?
Pas encore. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et non, pas le moins du monde.
D'accord, très bien.
Eh bien, après cette histoire et ce parcours, on va passer à la présentation d'un autre jeune vigneron de 44 ans. Jeune aussi parce qu'il vient tout juste de se reconvertir, comme vous Frédéric, dans ce métier. Et on l'écoute tout de suite.
Il y a quelques années encore, Loïc Massard était ingénieur informatique dans une grande entreprise française. En 2013, sa passion pour la vigne l'amène à acheter 8 hectares en Queyranne et à créer son domaine, les Chemins de Sève, à Roeix. Cette année, ce sont donc ses troisièmes vendanges.
Les vendanges ont commencé le 3 septembre. On a commencé par des blancs qui ont atteint un niveau de maturité satisfaisant en très peu de temps. Ce qui a un petit peu précipité le démarrage, qui était plutôt prévu initialement vers le 10 septembre.
Ça, c'est dû à la météo qu'il y a eu ces derniers temps ?
Exactement, gros coup de chaleur et une vive accélération de la maturité phénolique des raisins. Et ensuite, on a laissé passer une semaine et on a recommencé par les rouges samedi 10 septembre.
Pour acheter ces terres, Loïc Massard a créé un groupement foncier viticole. Les associés de ce GFV participent activement aux vendanges.
Donc ça c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau de gens un petit peu impliqués dans l'exploitation, enfin pas dans l'exploitation, mais on va dire dans les vignes, qui du coup regardent d'un œil à la fois bienveillant et intéressé l'exploitation, productrice de vin qui les rémunère avec ses vins du GFV. Et donc, on aime bien parce que ça permet d'impliquer les gens et de venir découvrir le vrai métier de vigneron.
Un métier de vigneron qui se pratique ici dans le sud de la France, un sud ensoleillé, qui a très bien été chanté par Nino Ferrer.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement une million d'années. Et toujours en été. Plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Temps dure longtemps et la vie surprend une million d'années. Et toujours en été. Dee 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 dee. faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été,
après cette pause de douceur ensoleillée, on se laisse pas engourdir et donc on va passer à un troisième reportage. Moi, je me suis rendu au pied des dentelles de Montmirail, un joli endroit avec le Ventoux en arrière-plan, pour découvrir donc à Violès un beau domaine à taille humaine, le domaine des Favards, tenu par la famille Barbeau et plus particulièrement par Céline, qui elle non plus n'était pas destinée à ce métier au départ, comme elle va nous le raconter.
J'ai un parcours un peu atypique ou tortueux, je sais pas comment on doit dire. Donc je reprends l'entreprise de mon père. Au départ, je me destinais pas à ça. Donc, je suis ingénieur en chimie et biologie végétale et j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 5 ans. Donc je suis allée au bout du projet, j'étais cadre, 35 heures avec un beau salaire et tout ce qui va avec. Et malgré ça, ben, en fait, je me suis aperçue que le projet était joli, facile, mais un peu ennuyeux à mon goût. Du coup, au bout de 5 ans dans l'industrie chimique, j'ai abandonné mon premier métier et je suis revenue ici sur l'exploitation familiale pour reprendre donc le domaine viticole.
Et c'est un domaine qui existe depuis combien de temps, qui est familial depuis plusieurs générations ?
Alors, c'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté en 1920. Et c'est relié au nom du domaine, d'ailleurs domaine des Favards, puisque mon arrière-grand-père avait un surnom. Son surnom, c'était justement le Favard. Le Favard en provençal, c'est celui qui a toujours la fève, Favard fève dans le gâteau des rois. C'est le chanceux. Et donc c'est mon père qui a donné le nom domaine des Favards au moment où il a commencé à faire la bouteille. Il a eu besoin de trouver un nom et en mémoire à son grand-père, il l'a appelé domaine des Favards. Le domaine des Favards, déjà, c'est 25 hectares en agriculture biologique. Sur deux appellations, Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village Plan de Dieu. Au niveau des cépages, donc déjà on fait des blancs avec Roussanne, Marsanne, Lyonnais et Clairette. Et ensuite sur les rosés et les rouges, les grands classiques de la vallée du Rhône, donc Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault et un petit peu de Carignan sur le Plan de Dieu également. L'exploitation est en bio depuis peu, puisqu'on a commencé la conversion en 2012 pour être certifié sur le millésime 2015. L'histoire, en fait, c'est que mon père, avant moi, n'était pas en bio, mais il était quand même un vigneron très, très, très raisonnable. Il utilisait quand même un produit dit conventionnel, donc non bio, contre certaines maladies dans l'été. Donc il y avait un traitement qui n'était pas bio, mais il ne désherbait plus chimiquement, déjà plus d'insecticides. Maintenant, on fait du vin biologique. Donc on a des règles à la vigne et des règles à la cave. Et ça me semblait illogique de fonctionner autrement. On a eu une année bizarre, on va dire, donc avec beaucoup de pluie en début de saison qui nous ont contraints à être très 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 vigilants au niveau des maladies. On s'en est très bien sortis, même en agriculture biologique, il n'y a pas eu de soucis pour ça. Et après, depuis début août jusqu'en septembre, il n'a pas plu. Et donc ça a été une grande chance au niveau sanitaire, puisque pas de pluie égale pas de maladie. Mais par contre, ça a été un petit peu difficile, notamment pour les jeunes vignes qui ont manqué d'eau. Nous, on n'est pas équipés pour arroser les vignes par choix. Et donc, elles ont souffert un petit peu de la sécheresse. Alors, ça fait un très, très, très beau millésime qui est vraiment magnifique. Par contre, c'est vrai qu'on va manquer un petit peu de quantité, mais on ne peut pas tout avoir.
Le domaine des Favards, ce n'est pas que du vin. C'est aussi un camping, un gîte. Expliquez-moi cette orientation vers le no-tourisme.
ça a commencé bien avant moi, puisque c'est mes parents qui ont eu l'idée de créer un camping il y a plus de 20 ans, il y a 22 ans maintenant. L'idée, c'est qu'ils trouvaient déjà que c'était très complémentaire. Donc, mon père, il a fait toute sa carrière avec de la vente aux particuliers, où il faisait lui-même ses livraisons dans la France entière, jusqu'en Bretagne, à Lille ou même en Belgique. Donc, il aime ce contact avec le client au final. Donc, l'idée du camping est venue de là. Après, bon, c'est un camping qui s'est agrandi, qui évolue en totale synergie. Sur le domaine, il y a aussi un gîte, toujours dans le même esprit. Et depuis cette année, j'ai créé sur le domaine Sentier Vigneron, où l'idée, c'est de faire comprendre aux gens notre façon de voir la culture de la vigne. Donc, sur ce Sentier Vigneron, on leur parle de l'écosystème de la vigne, de la biodiversité qu'on essaye de retrouver ou de favoriser, avec l'implantation de haies fleuries, par exemple. Le fait qu'ils marchent dans les vignes et qu'ils voient les vignes, c'est vraiment, vraiment important à mon idée. Le but du jeu, c'est de cultiver la vigne, faire pousser les beaux raisins. Et quand on a un beau raisin, forcément, on fait du bon vin.
Alors, question subsidiaire. Au milieu de l'interview, on a entendu des petits frémissements. Vous pensez que c'était quoi?
Alors ça...
Frédéric doit savoir.
Je pense que c'est des milliers, voire des millions de collaboratrices bénévoles. C'est les levures qui faisaient leur travail.
Ouais. Absolument, absolument. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même que le raisin et le vin, ça n'est pas quelque chose d'inerte. C'est quand même quelque chose qui est vivant. Et que de le passer de cuve, qu'elle soit en pierre ou qu'elle soit en alu, dans des fûts en chêne ou d'autres essences, eh bien on s'aperçoit que c'est pour le faire vivre. Et comme le dit très bien d'ailleurs Céline Barbeau, on essaye d'amener le raisin là où on a envie qu'il aille, mais il n'y veut pas forcément, quoi.
Alors, Frédéric, pour essayer de conclure un peu ce dossier, je voudrais qu'on évoque un petit peu aussi la prospective, puisque Château Pesquet est installé au cœur de l'AOC Ventoux. L'AOC Ventoux, c'est une petite appellation qui monte, puisqu'il y a vraiment eu un énorme effort qualitatif, notamment mené par des grandes caves particulières comme la vôtre. Comment vous voyez l'avenir? Comment toi et ton frère vous imaginez l'avenir? Comment vous voyez un peu se passer l'avenir de cette AOC? Est-ce qu'elle peut continuer à travailler? Est-ce qu'elle doit s'allier avec d'autres? Est-ce qu'elle doit, voilà. Comment vous y voyez un peu les choses?
On n'a pas de boule de cristal, mais on a de grands espoirs pour le Ventoux. On est assez optimiste. Il y a évidemment des problèmes, mais je crois qu'il y a une prise de conscience collective de tous les acteurs de la production qu'effectivement l'avenir était dans la qualité. Et il y a eu une émulation entre tous ces acteurs qui va vraiment dans le bon sens et de plus en plus vite. Et après, je crois qu'on est un étrange exemple de conséquences positives du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un terroir de fraîcheur. On est un terroir tardif. Ça, parfois, en tout cas, il y a 30 ou 40 ans, était un handicap où la maturité des raisins était parfois difficile à aller chercher. Et aujourd'hui, au contraire, on a plus aucun problème de maturité. Au contraire, on n'a qu'à regarder le degré des vins du Sud. En général, tout le monde a des raisins très mûrs. Mais dans le Ventoux, on a cette chance d'avoir de la fraîcheur, d'avoir de l'équilibre et de pouvoir faire des vins assez élégants et qui me semble, voilà, on a un terroir qui est assez magique et que le réchauffement climatique, bizarrement, nous permet de faire encore mieux découvrir. Et je crois que on peut être très optimiste pour l'avenir de notre appellation.
Ce climat, il a aussi l'avantage d'attirer pas mal de touristes. Le Château Pesquet a été une des premières caves particulières dans l'AOC Ventoux, mais aussi dans le Vaucluse, a vraiment développé le no-tourisme. Dès 2003, vous aviez justement un sentier vigneron comme celui du domaine des Favards. Vous avez récemment encore réaménagé votre caveau qui était déjà pas mal, mais vous l'avez encore aménagé, amélioré, etc. Le no-tourisme, c'est vraiment une piste importante pour l'économie des exploitations agricoles et viticoles vauclusiennes?
C'est une piste essentielle, à l'évidence, et j'invite évidemment tous les auditeurs à venir nous rendre visite. Je crois que là aussi, il y a une prise de conscience qui est à l'échelle de l'appellation et plus encore, mais de l'importance d'accueillir, de savoir accueillir et de développer des produits un petit peu intéressants pour mieux partager la compréhension de notre terroir. Et donc aujourd'hui, il y a le Sentier Vigneron, mais aussi on fait des marchés l'été dans nos jardins. On reçoit des vignerons d'autres régions de France en décembre pour une petite foire au vin au domaine. Et on vient on est en train de terminer ce qui sera une salle de séminaire pour recevoir d'autres entrepreneurs locaux. Le no-tourisme est essentiel pour nous et on espère recevoir le plus de monde possible au domaine.
Mais il a fallu aussi acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux métiers. C'est aussi un peu un changement de culture, on dirait un changement de paradigme carrément pour les vignerons.
On fait un métier qui est d'une telle diversité qu'effectivement c'est difficile d'être bon partout, de la vigne au conditionnement, de l'accueil à la vinification. On a la chance d'avoir une équipe pour ça, heureusement, et c'est évidemment pas que sur mon frère et moi que ces responsabilités reposent, fort heureusement. Et donc voilà, on a une responsable de nos tourismes, l'équipe en saison s'élargit aussi pour recevoir, et on espère continuer à pouvoir embaucher, notamment grâce à nos tourismes.
Très bien, merci.
Eh bien, je vous propose une dernière petite pause musicale avant de passer à d'autres rubriques. Franz Ferdinand, Wine is the Afternoon.
And the calor gas is running low, but I don't mind. I'm doing things and doing them with you. Well, you know he's gonna want his rent tonight, but we'll have to tell him how to swallow all the rent this month. So summer stains the sky with inky swirls that bring the thunder low. But I don't mind. I'm doing things and doing them with you. And if you're smart, you'll put that book back down. You drag me to the floor, drag me down for more. Drinking wine, we have to lose. Do do do. Drinking wine, we have to lose. Tomorrow's Thursday, that's my day of work. That's my day of walking up the Berry Hill Road, making up some lie about some job applied for. When I've been drinking wine, oh, I've been drinking wine in the afternoon. Filters left their filthy butts behind, left their blackened heads down in the ashes. That's the last before they're pulled apart and placed within the papers for a drag effect. Deserves a second life, deserves a second life. Don't we all? Don't we all? Don't we all? Don't we all? We're drinking wine in the afternoon.
Et oui, quand on boit un peu trop de vin dans l'après-midi, c'est comme ça que ça se termine, effectivement. Bien après que les Écossais de Franz Ferdinand nous les aient fait écouter leur mélodie, nous allons maintenant passer à quelque chose d'un peu plus conséquent avec la rubrique compta juridique qui va nous être présentée par Mélanie Schex du cabinet Argonne.
Bonjour Mélanie, donc comme prévu, nous allons aborder les mentions légales sur les factures de professionnels. On va essayer de les prendre à peu près dans l'ordre. Quels sont donc ces éléments essentiels ?
Bonjour, on va commencer par le numéro de facture qui est unique pour chacune des factures, qui doit être basé sur une séquence chronologique continue et sans rupture. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de supprimer une facture et de ne pas réallouer ce numéro à autre chose.
Quelles sont les dates qui sont obligatoires sur une facture ?
On est obligé de noter la date de la facture, laquelle elle est établie, et ainsi que la date de livraison de la marchandise vendue ou la date d'achèvement de la prestation de service.
Et ensuite, évidemment, on va avoir des informations sur le client.
Effectivement, sur le client, il faut son identité générale, donc sa dénomination sociale, le nom de la structure juridique éventuellement, l'adresse du siège social, son numéro SIRET, et éventuellement le numéro de TVA intracommunautaire.
Je rassure nos auditeurs, toutes ces informations seront en ligne sur rtvfm.net et dans un premier temps sur cnews.press. C'est pas la peine de vous presser pour tout noter. Les informations qu'on va retrouver concernant le vendeur.
Alors pour le vendeur, c'est à peu près les mêmes que pour l'acheteur. Il faut noter la dénomination sociale, l'adresse du siège social et pas forcément de l'établissement dans lequel se passe la prestation. C'est vraiment l'adresse du siège social qui est importante. Le numéro SIRET de la société, le nom du greffe d'immatriculation précédé du numéro RCS, et pour les sociétés ou les artisans qui relèvent du registre des métiers, il faut également noter le numéro registre des métiers et le département d'immatriculation. N'oubliez pas également de noter votre numéro de TVA intracommunautaire si vous êtes soumis à TVA et si vos prestations excèdent 150 euros hors taxe.
Ensuite, évidemment, les prestations et produits.
Alors, pour les prestations et produits, il faut essayer d'être assez exhaustif pour éviter tout litige sur le bien vendu ou sur la prestation rendue, en notant la date à laquelle s'est établie la prestation, à laquelle elle a été achevée. Noter également son prix, les frais accessoires d'achat, le taux de TVA applicable et le montant de la TVA dû de manière très explicite, total hors taxe, montant de la TVA, total TTC.
Une fois qu'on a défini les prestations, les produits et les prix, on se retrouve avec des modalités de paiement qui, je l'imagine, sont assez importantes.
Alors effectivement, il y a quelques obligations en termes de modalités de paiement. Il faut noter sur les factures le délai de paiement. Dorénavant, vous savez que les entreprises sont obligées d'imposer des délais de paiement qui sont de plus en plus courts. Ces délais de paiement et ces conditions d'escompte doivent être nécessairement indiquées sur les factures. Il faut également noter les mentions obligatoires en termes de pénalités de retard pour pouvoir les faire appliquer. Et depuis 2013, il faut également mentionner l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Et y a-t-il des mentions particulières à indiquer, soit pour certains secteurs d'activité, soit pour certains produits ou prestations ?
Alors effectivement, je noterai trois mentions particulières. Premièrement, pour les sociétés qui sont membres d'une association de gestion agréée, il est important de noter que le règlement par chèque est accepté. Ensuite, pour les entreprises ou pour les sociétés qui ne sont pas soumises à TVA, il faut bien rappeler le cadre dans lequel on se place. Pour une franchise en base, par exemple, ce sera la mention de l'article 239B du CGI. Pour le secteur du bâtiment, si vous êtes dans un cas d'auto-liquidation de la TVA, il faut également le préciser. Pour le secteur du bâtiment, toujours, il faut également mentionner les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de la garantie décennale, notamment.
Merci Mélanie pour toutes ces infos sur les factures. On se dit au mois prochain.
Au mois prochain.
Alors effectivement, tout ceci est très 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 technique. Vous aurez plus d'informations déjà sur le site cnews.press. Alors sans le E à presse, vous aurez l'intégrale du podcast de la rubrique de Mélanie Schex du cabinet Argonne. Et également, vous aurez plus d'informations sur service-public.fr. Vous trouverez d'ailleurs un lien sur un article sur cnews.press, un article qui reprend les différents liens des invités, les différents podcasts. Vous retrouverez toute l'émission à écouter sur le net ou également évidemment sur rtvfm.net. On va passer maintenant à quelques petites infos, des brèves, des agendas. Pour rester dans le ton, Parce qu'on a quelques dates et échéances pour ce mois de novembre. Pour rester dans le ton, eh bien, le troisième jeudi de novembre sonne traditionnellement la sortie des vins nouveaux. Eh bien, pas de dérogation à la tradition donc cette année. Le 17 novembre, de nombreuses animations sont prévues dans toute la région. Alors, surveillez vos cavistes, vos restaurants favoris, les bars à vin autour de chez vous, également les différentes caves. Musique, dégustation, bon moment entre amis seront au rendez-vous. Mais encore une fois, pas d'abus, buvez avec modération, sinon ça ne sera plus un plaisir.
Si vous avez tenté de relier Avignon en voiture depuis Carpentras, vous n'avez pas été sans remarquer, ces derniers jours, que des travaux avaient lieu entre le rond-point de Rossy, à Monteux, et le pont des Vaches, à Altin. Jusqu'à la fin novembre, la circulation sur cette section pourra en effet être ramenée à une seule voie par moment, ce qui, à certaines heures, vous contraindra soit à prendre votre mal en patience, soit à rejoindre la Cité des Papes en passant par Saint-Saturnin et Morières, où d'autres bouchons vous attendront, soi-disant à peu près sûr. Sachez donc que ces travaux ont pour but, d'une part, la rénovation du réseau fluvial, d'autre part, la création d'une belle banque d'arrêt d'urgence, et enfin, la création d'une bretelle d'accès à l'écoquartier Beaulieu, qui accueille depuis un an le parc à thème Splash World, en face duquel devrait s'ouvrir, d'ici 2 ans, un autre parc, cette fois consacré à Spirou.
Et moi j'ai une petite annonce, la commune de Garcasse propose des vignes à la location. Elle recherche d'ailleurs un agriculteur pour la reprise d'un terrain d'un peu plus de 2 hectares, en location donc, avec des vignes qui devront être obligatoirement cultivées en bio. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie de Garcasse pour plus d'informations.
Bien, eh bien cette émission arrive à sa fin. Merci beaucoup Frédéric Chaudière d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Et puis, on attend de découvrir le nouveau millésime 2016 des vins de Château Pesquier. La prochaine émission et la prochaine édition d'Envie d'entreprendre, donc saison 4, épisode 2.
Voilà, elle est liée à une date qui est quand même importante pour Carpentras et le Comtat, parce que je crois que c'est le 27 novembre, elle va être liée à cette date-là.
Exactement, qui est bien entendu la date depuis quasiment 500 ans de la Saint-Siffrin. La prochaine émission donc aura lieu le 3e mardi de novembre, puisque c'est à chaque fois le 3e mardi de chaque mois. Le 4e, pardon, excusez-moi, je ne sais absolument plus compter, c'est terrible.
Voilà.
À savoir donc le 22 novembre. Elle sera entièrement consacrée à la foire Saint-Siffrin et notamment à la question de savoir quel est son impact sur l'économie locale. Donc comme le disait effectivement Jean-Marc, la foire Saint-Siffrin a lieu, il y a le 27 qui est la grosse journée avec la foire aux chevaux, etc. Mais la foire a lieu du 25 au 27. Sachez que en plus de votre radio préférée, RTVFM, bien entendu, qui sera présente sur la foire Saint-Siffrin, elle y sera en compagnie de votre site internet d'information générale préféré, CNews.press, bien entendu, et ainsi que de nos confrères de l'Écho du Mardi et de Vaucluse Agricole. Tout ce beau monde se retrouvera sur le pôle média installé grâce au comité de la foire et à Antoine Laval, au cœur du grand chapiteau de la prairie des Couquières. Vous pourrez assister, en plus, sur ce pôle média, au lancement du nouveau web média d'information économique du Vaucluse, qui s'appelle jour8.com. Rendez-vous donc le 22 novembre prochain, et que le bon vent vous accompagne d'ici là. Je vous propose, pour vous encourager, le jingle que nous a concocté Aude, qui est la jolie voix que vous avez entendue dans le générique de début, qui a fait une version un petit peu particulière de ce générique.
Bonsoir à tous.
Envie d'entreprendre, économie locale, c'est news.press.
Envie d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec CNews.press.
Chablis Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursans, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais, Lirac, Médoc, Champagne, et Puligny, Montrachet, en cave obscure, vieillirai et prendrai belles années.
Puis un jour une main tremblante, doucement. passera, essuiera la noble poussière, et vous monterez en silence les escaliers de vieilles pierres pour arriver jusqu'au salon. Là, vous ferez l'admiration. C'est aujourd'hui anniversaire. Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Pommard, Canton, Clos, Saint-Denis, Givry, Romane et Conti, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Et comme un rêve qui s'achève, la soirée se terminera, laissant les rives dans les verres, laissant bien vides les bouteilles et tous ces vieux bouchons de liège finiront leur vie de bouchon là, dans le buffet du salon, dans un tiroir. Quelle misère. Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursan, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Laissez-nous vous remercier. Laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous. Laissez-nous vous remercier. Break it, break it, break it, break it. Yeah.